Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Alors, quand on fait du code d'infrastructure, on peut soit tout refaire soi-même, soit utiliser du code libre mis à disposition par d'autres personnes sur Internet. Alors justement, aujourd'hui, on va se pencher sur la gestion de la configuration, en particulier avec Ansible, et on va se demander s'il vaut mieux utiliser des modules ou des playbooks publics, ou alors redévelopper des ressources personnelles nous-mêmes.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti !
Bienvenue à toi, cher compagnon, dans Radio DevOps, ton émission de vulgarisation cloud et DevOps mensuelle. Alors, tu l'auras compris à l'introduction, aujourd'hui, on va parler d'Ansible, mais pas seulement, parce que notre réflexion et notre discussion, elles restent valables sur tout un tas d'outils, et notamment les outils d'infrastructure as code et de configuration management dont on va parler aujourd'hui. Alors, on va s'appuyer, pour certains d'entre nous, beaucoup sur Ansible, parce qu'on est beaucoup à connaître Ansible ici, mais ça reste valable pour absolument tout. Pour parler de ce sujet-là avec moi, j'ai Nicolas. Bonsoir Nicolas.
Salut tout le monde.
J'ai aussi René. Bonsoir René.
Ouais, bonsoir à toutes et tous.
Et enfin Damir. Bonsoir Damir.
Salutations.
Et on va commencer à se poser la première question de pourquoi est-ce qu'on voudrait réutiliser des modules, des librairies, des playbooks publics, puisque dans Ansible on utilise le terme playbook, ou tout un tas d'autres choses qui soient déjà publiées sur Internet et qui sont souvent libres. Est-ce que l'un d'entre vous veut commencer cette partie-là et nous dire pourquoi est-ce que lui-même utilise des parties libres sur Internet ?
Je peux commencer. Globalement, moi, ce que je fais depuis quelques temps, c'est pour tout ce qui concerne pas le métier directement de ma boîte, donc l'hébergement de notre solution ou des choses comme ça, mais plus l'hébergement d'un CMS pour le site institutionnel, un blog, des composants un petit peu métiers, mais qui sont pas directement liés à notre valeur ajoutée. C'est si ça existe sur étagère, que je suis capable de le mettre en place en un quart d'heure et que je vais repasser une demi-heure par-ci par-là à le maintenir, tant qu'à faire, autant le réutiliser. Par contre, c'est comme une librairie open source que je vais utiliser, je vais regarder qu'est-ce que ça va m'apporter, combien de temps je vais mettre pour l'intégrer, et est-ce que le truc est maintenu, est-ce que le code est lisible, parce que si c'est abandonné, il faut que je puisse le reprendre. Et si je peux le faire directement moi-même en 3-4 lignes de code, je vais plutôt avoir tendance à le réutiliser moi-même. Et sinon, c'est Erwan qui s'était exprimé par rapport à ça avant moi, quand on avait préparé l'épisode, mais qui ne peut pas être là. Lui, ce qu'il regarde aussi, c'est toute l'activité sur le repo, les issues, les updates, est-ce que les issues sont bien corrigées dans les temps, etc. Mais aussi s'il y a des tests de CI pour vérifier que tout fonctionne. Donc là, par exemple, si on parle d'Ansible, est-ce que ça marche bien dans X versions d'Ansible avec X versions de Python sur des systèmes d'exploitation différents, etc. Et vérifier que ça supporte bien différents systèmes d'exploitation, comme de la Ubuntu, de la Red Hat. Alors, c'est là où moi, je mets un petit bémol par rapport à ça. C'est quand ça en supporte un petit peu trop et que quand on commence à aller regarder dans le code que c'est vraiment trop compliqué et que ça paraît un petit peu tordu la manière dont c'est fait, c'est là où moi, je me pose la question de réécrire tout ça moi-même. Et toi, Christophe, tu gères comment ça, par exemple, sur Frogit ?
Alors, avant de parler vraiment de Frogit, je voudrais juste parler de mes cours, parce que je donne des cours d'Ansible, justement. Et moi, je conseille à mes étudiants de démarrer tout de suite en utilisant ce qu'on appelle des rôles dans Ansible, donc du code libre, pour la simple et bonne raison, et je crois que Damir va aller peut-être dans mon sens. Déjà, ça va leur permettre d'être autonomes plus rapidement, puisqu'ils vont se baser sur du code qui est écrit par d'autres. Mais je leur dis toujours, à chaque fois, attention, en plus de dire tout ce que tu as dit pour aller choisir vos rôles, lisez le rôle pour vous imprégner en fait de comment est-ce que en cible ça se comporte. Comment est-ce qu'on écrit du en cible, allez voir ce que d'autres font, et comme ça vous allez pouvoir apprendre plus facilement. Parce que mon cours, il est vraiment court, donc je ne peux pas rentrer dans tous les détails et toutes les bonnes pratiques.
Bah, si je peux rebondir là-dessus, bah, moi j'ai un peu je suis d'accord avec l'approche, et après c'est vrai que j'ai tendance à quand même d'abord essayer de les pousser un maximum à faire des choses, toute la chaîne en fait, pour qu'ils comprennent bien les embranchements entre guillemets. Mais autrement, au niveau de l'apprentissage entre guillemets, il y a quelque chose qui est très vrai. Il faut vraiment qu'ils prennent le temps de lire et de comprendre ce qui a été fait. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même qui est important et qui est malheureusement pas souvent fait, en tout cas pas assez fait sérieusement. Donc c'est un exercice auquel il faut s'habituer.
Exactement. Et du coup, pour répondre à cette question sur comment on fait pour Frogit, on fait un peu des deux. Donc, on utilise des briques déjà faites. En fait, chez Lydra, on a identifié tout un tas de briques qui nous permettent de configurer des serveurs comme on le veut, sans avoir à redévelopper des choses. Donc on utilise ces rôles-là qu'on maintient à jour dans un fichier de requirement. Et pour Frogit en lui-même, on utilise un rôle justement qui installe GitLab, mais on l'a complété avec tout un tas d'autres choses, et on est en train justement de se demander si on va pas nous-mêmes développer notre rôle, parce qu'on atteint les limites des choses. Mais ça, je pense qu'on en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Mais grosso modo, tout ce qui est déjà fait sur Internet, nous on le réutilise, quitte à justement participer à l'évolution de ces briques libres. Parce que la question, en fait, nous, on est tout petits, on est trois techs, et du coup, on ne peut pas se permettre de maintenir tout un tas d'outils nous-mêmes.
Je pense que c'est la bonne démarche. Hein. Après, c'est un peu comme une librairie. Après, plus il va y avoir de contributeurs, mieux ce sera. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on cherche à avoir, en fait, c'est de se simplifier la vie et essayer de partir sur un code qui est déjà éprouvé, testé et fiable, quoi.
Bah oui, c'est ça. Et puis le fait de participer à du code existant, surtout s'il convient à notre cas, ça renforce en plus le code qui est déjà utilisable. Je suis assez d'accord avec Nicolas quand il dit que quand il y a plusieurs distributions un peu différentes, parfois les installations, elles sont vraiment hyper spécifiques à chaque fois. Là, c'est vrai que ça devient problématique, mais bon. Nous, on a toujours la même base, donc on a identifié nos rôles sur Ansible, donc on va utiliser ces rôles-là.
Après, il y a aussi un truc à prendre en compte. Moi, je sais que quand je faisais de l'Ansible, j'utilisais beaucoup les rôles de Jeff Gerling, parce que ces rôles sont vraiment excellents. Je crois qu'il a même fait un bouquin. Et en fait, c'est quand tu as des contributeurs comme ça, alors ça peut être un contributeur personnel, comme Jeff, mais aussi certaines organisations. Il y a des trucs du style Linux Server, machin, etc., où en fait, ils vont maintenir des rôles et tout va être construit de la même manière. Et du coup, c'est très facile à maintenir. S'il y a toute une équipe derrière, c'est plus simple pour avoir de la fluidité, parce que il y a des montées de versions, il y a des évolutions dans les produits, il faut prendre tout ça en compte. Et s'il y a plusieurs personnes à contribuer, ou une seule personne, mais qui est très véloce dans sa mise à jour, parce qu'elle a vraiment une expertise dessus, c'est foncer à utiliser ces briques déjà toutes faites, parce que vous allez gagner énormément de temps, et refaire ça vous-même, vous allez prendre un temps fou. Donc l'intérêt de l'open source, c'est aussi de pouvoir réutiliser des briques, et quand elles vous conviennent pas, potentiellement y contribuer. Et d'ailleurs, contribuer aux briques déjà existantes, vous apprendrez énormément sur le produit aussi.
Oui, surtout que quand on parle des briques standards et communes, typiquement gérer les utilisateurs, gérer du SSH et ce genre de choses, c'est des trucs qui sont faits partout. Et donc, redévelopper quelque chose, c'est pas forcément nécessaire, parce que les outils qui sont déjà à disposition, font très bien les choses. Par contre, nous, ce qu'on fait, c'est que grâce aux variables, notamment dans cible, on peut modifier les comportements des rôles, et c'est ça qu'on fait justement. Vous avez un autre truc à dire justement sur le pourquoi est-ce qu'on pourrait utiliser des modules ou des playbooks publics?
Non, pour être honnête, moi, je suis à l'inverse de, je pense, le panel ici. Je tends à pas spécialement, à pas en utiliser énormément. J'en utilise de temps en temps, beaucoup plus peut-être sur du cube, mais moins, on va dire, que la moyenne de l'équipe actuellement dans le podcast.
Ben, on en parlera justement dans la deuxième partie. Alors,
il y a un autre truc.
Ouais. Vas-y.
À pas négliger non plus, c'est que si on vous demande d'installer un composant que vous ne maîtrisez pas forcément, en général, les configurations par défaut sont assez bien foutues pour partir directement en prod. Donc, par exemple, sur du Nginx, vous aurez les headers de prod qui seront désactivés par défaut, vous aurez le nombre de workers, etc., qui seront correctement gérés. Et ça, c'est pas négligeable en termes de gain de temps aussi, parce que non seulement vous allez installer votre produit rapidement, mais en plus vous l'aurez configuré correctement pour être prêt plus rapidement à partir en prod.
Exactement.
Une bonne source d'inspiration si on veut, même sans les utiliser, créer ses propres modules à soi, entre guillemets. C'est vrai que c'est bien de s'inspirer aussi de ce qui est fait. Ça peut donner des idées. Et puis souvent, les gens qui en font beaucoup, je pense qu'ils ont des bonnes pratiques. C'est bien de les suivre.
Tu me fais une transition parfaite sur pourquoi est-ce qu'on pourrait créer des briques libres, puisqu'on a parlé d'utiliser, mais avant de parler à pourquoi est-ce qu'on devrait redévelopper pour un usage interne, je voudrais qu'on parle un petit peu de pourquoi est-ce qu'on irait, nous, créer des briques de ces outils-là. Et notamment, je vais vous apporter un témoignage et puis après, je laisserai la parole à Damir. Je vais vous parler de la collection en cible Why-You-Know-Host qu'on développe chez Lydra, puisqu'on a découvert Why-You-Know-Host il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans, je dirais. On a commencé à l'utiliser un petit peu. Et on s'est posé la question, évidemment, en mode DevOps, comment on fait pour l'installer, le configurer, et ce qu'on peut le faire avec Ansible. Et on a étudié un petit peu les rôles qui étaient à disposition sur Internet, mais on s'est aperçu que déjà, tous partaient d'un seul et unique rôle. Ils n'étaient pas forcément maintenus. Ils respectaient parfois pas les bonnes pratiques que nous, on a édicté en bonne pratique, hein, celle que nous, on suit. Et du coup, on s'est posé la question, est-ce qu'on referait pas nous-mêmes un rôle? Et on a décidé d'en faire un, parce que voilà, on voulait développer un service basé sur You-Know-Host. Et on a fini par maintenir une collection complète. Donc une collection dans Ansible, c'est un ensemble de rôles, parce que on a étendu le comportement de You-Know-Host au plus loin du plus loin. On a ajouté des choses par rapport au fonctionnement de You-Know-Host, et là on va rajouter encore plein de trucs. Donc ça, c'est un truc, c'est un témoignage, c'est si vous-même vous créez des briques qui à l'origine sont libres mais qui ne conviennent pas forcément, et que ça peut être en effet utilisable par d'autres, pourquoi ne pas le rendre libre, puisque nous, c'est notre objectif, c'est de rendre libre les choses. Même si on a une partie de notre business qui utilise cette collection-là, nous, ce qu'on va vendre à nos clients, évidemment, c'est le service et la gestion qui est tout autour de cette collection, hein, puisque si on prend la collection et qu'on installe You-Know-Host et qu'on la configure, c'est pas suffisant. Il y a toute la partie administration, infogérance, etc. Et je laisse la parole à Damir.
Du coup, je rebondis là-dessus. Pourquoi avoir créé une nouvelle... une nouvelle collection, plutôt vous avez peut-être essayé de voir avec ceux qui existaient déjà pour leur proposer des refactos, des évolutions, ou...
Alors oui, on a proposé au tout début de participer à l'évolution des rôles existants, sauf qu'en fait les personnes répondaient pas vraiment. On avait vu que les projets étaient parfois abandonnés. On a contacté d'autres personnes. qui étaient en voie d'abandon de leur projet. Donc, celles qui nous ont répondu nous ont dit, bah, reprenez le code, il n'y a pas de souci, il n'y a pas le problème. Et on a fait une collection après parce qu'en fait, on s'est aperçu que notre rôle n'était pas assez modulaire et on a rajouté des trucs qui n'étaient pas prévus par les autres rôles, notamment tout ce qui est partie backup qui n'était pas prévu dans Unohost. Bah, on a rajouté un rôle, etc., les rôles de configuration des applications et autres et autres. Et du coup, en fait, il s'avère qu'aujourd'hui, notre collection est la plus utilisée sur Unohost dans Site Galaxy. Donc, c'est que, en fait, les rôles existants ne suffisaient pas vraiment et n'étaient pas maintenus. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de partir dans la création d'une autre.
Ok, je pense que c'était intéressant de préciser pour les lecteurs, vu qu'on parlait de participer à l'open source. Du coup, une des raisons que je vois aussi, ça peut être quand on est une très petite équipe ou quand on est une équipe qui n'a pas forcément toutes les compétences sur un domaine, ça peut être intéressant de créer des projets, de les partager en open source pour bénéficier un peu de l'expertise de la communauté, on va dire, et pouvoir avoir un peu des retours sur ce qu'on fait pour s'améliorer, pour améliorer son code, quel qu'il soit. Après, faire attention, parce que c'est quelque chose qui est pas magique. On a tendance des fois à croire que on met dans l'open source, genre plein de contributions. La réalité, c'est qu'on va rester assis derrière son bureau à attendre, on n'en aura pas. Donc, c'est pas du tout certain, mais ça peut être un axe aussi dans certains cas, ou des cas un peu précis où il n'y a pas beaucoup de projets qui existent, pour améliorer les choses.
Après aussi, je pense que c'est partagé là maintenant. Si le projet prend, effectivement, après ça, c'est voilà, quelque part, si ton projet il est un peu en vue, c'est un moyen d'avoir des contributions et de partager la maintenance et de potentiellement aussi d'étendre. Et puis il y a un aspect aussi un peu, je pense que c'est un peu aussi un peu ça dans ton cas, Christophe, c'est un peu un côté marketing. Tu montres un peu ce que tu sais faire, ça fait un peu parler, etc. Après, ça reste modeste, mais bon, c'est mieux que rien.
Je vais rebondir tout de suite parce que c'est clairement ça. Il y a un côté marketing de montrer ce que nous on sait faire par du code. Et justement, là, je prévois de faire quelques vidéos justement autour de ça pour parler d'ensuite de Unohost aussi pour faire découvrir Unohost et comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans le cadre d'une entreprise DevOps, parce que je sais qu'il y a pas mal d'entreprises qui utilisent Unohost comme base de services en ligne et ça peut être une solution. Et justement, développer des briques libres, c'est une des voies, c'est montrer ce qu'on sait faire pour obtenir de futurs clients qui viennent parce qu'ils ont vu qu'on savait faire ça. Je vais rebondir aussi sur l'animation de la communauté parce que c'est très vrai. Une communauté libre, ça s'anime. Nous, on était des tout novices, hein. On n'a pas de contributeurs extérieurs, mais aussi parce qu'il y a très certainement très peu encore de personnes qui utilisent cette solution-là. Mais je pense que c'est la plupart des mainteneurs libres n'ont pas vraiment de contributeurs externes, à part si ta solution elle est vraiment utilisée par beaucoup de monde, type Kubernetes ou ces gros projets-là, je pense que tu as des contributions externes, mais sinon, c'est très dur d'avoir des contributions externes et tu fais pas forcément du libre pour en avoir. Je pense que tu fais surtout du libre pour partager à la communauté et aider la communauté de manière globale, en fait.
C'est justement ce que je voulais ajouter. C'est aussi une des manières de contribuer à la open source, de montrer le bon exemple et se rendre compte que finalement, en mettant une partie des compétences en externe, on ne vient pas forcément tout vous piquer. Et effectivement, sur un malentendu, on peut avoir des retours. Donc, tiens, moi, je l'ai utilisé, j'ai eu tel problème. Ça va vous éviter d'avoir le problème de votre côté. C'est, tiens, moi, j'aurais fait comme ci, j'aurais fait comme ça. Bon, pourquoi pas. Si vous allez voir sur mon GitHub, vous verrez que j'ai mis en open source des trucs sur Chef, des trucs sur Ansible et des trucs sur SaltStack. J'ai eu zéro contribution, mais bon, au moins, j'essaye de jouer le jeu. Par contre, ce que ça m'a apporté, c'est que j'ai des éditeurs de bouquins qui m'ont contacté pour faire des relectures techniques. Donc, j'avais fait une lib sur pour faire du Proxmox. Et en fait, ils m'ont contacté parce qu'ils recherchaient un lecteur technique sur la partie Proxmox. Et en fait, ça va vous apporter énormément parce que vous vous faites connaître sur une techno un petit peu particulière. Ce qu'il y a de marrant, c'est que j'ai été identifié comme un expert de Proxmox, alors que j'en avais pas forcément l'impression. Mais du coup, j'ai eu l'occasion de relire un bouquin. Et quand vous avez l'occasion de relire un bouquin en preview, ça vous oblige à le lire puisqu'on vous paye pour. Et en plus, vous apprenez énormément de choses. Et du coup, vous progressez d'une autre manière. Et potentiellement, vous allez pouvoir améliorer ce que vous avez mis en open source après avoir appris des choses.
Pour compléter tout ça, on parlait du côté un peu plus commercial ou en tout cas mise en avant personnelle. Il y a aussi pour les entreprises le recrutement. Je sais que typiquement, donner des exemples basiques ou des choses sur lesquelles se reposer, il y a des étudiants, quand ils vont chercher un peu de l'aide sur Internet ou comment débuter, ils vont tomber dessus, ça va les aider, ils vont retenir positivement le nom de l'entreprise. Donc c'est aussi quelque chose qui se fait aujourd'hui.
Ah, ouais, tout à l'heure on parlait de marketing, mais ce que tu dis, Nicolas, c'est la preuve sociale, c'est prouver qu'on sait faire quelque chose, et on a tendance à oublier, mais finalement on n'est pas tant que ça à produire du code public, et c'est pas anodin en fait de mettre à disposition son code, même s'il sert à personne, parce que comme le dit Damir, typiquement moi quand je recrute des gens, je leur demande le lien vers leur repo GitHub ou GitLab pour aller voir quel est leur code, et souvent je m'aperçois qu'ils en ont pas. Et donc même participer à un logiciel libre, si petit soit-il, identifier des commits et dire celui-là c'est moi qui l'ai fait, ça permet en effet aux recruteurs de pouvoir nous recruter.
Après ça, il faut se méfier des approches là, parce que j'ai eu beaucoup de cas où les gens n'avaient pas le droit de commit sur des repos publics ou des choses comme ça. Ce qui est aussi une autre problématique, Ils sont pas forcément, surtout quand tu débutes, t'es pas forcément le plus grand. Non, tu peux pas forcément décider de changer d'entreprise juste pour une raison comme ça, si tout le reste va. Même après, remarque. Donc du coup, j'avoue que moi je fais un peu attention à ce genre de, entre guillemets, raccourci pour le coup sur les profils publics.
Mais quand il y a des choses, tu peux voir que la personne a contribué et que ses contributions sont pertinentes, intéressantes, etc. Donc, c'est un plus.
Si, ça, c'est un plus, mais ça sera jamais un moins. Je le mets comme dans toutes les activités qu'on compte un peu sur le temps perso. Moi je vois, il y a mon blog, il y a donner des cons, c'est plus sur le temps pro. Mais avoir un blog ou faire des contributions, des choses comme ça, pour moi, je le mets un peu à part. C'est pas quelque chose que je compterais comme un moins s'il n'y en a pas.
Et pour donner un exemple, dans ma boîte, on est en train de recruter un développeur front pour maintenir la partie open source du développement. On dit aux gens, va voir le code, il est là. Donc, et puis c'est ça qu'il va falloir que tu maintiennes. Donc, si tu as des reproches à faire, viens chez nous, tu pourras faire tout ce que tu veux.
On a fait exactement la même chose quand on a recruté notre alternant front. On lui a dit, va voir notre projet, il est public, dis-moi ce que t'en penses. Ça nous a permis de lancer la discussion justement à ce sujet-là. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le pourquoi est-ce qu'on pourrait créer des briques libres, ou est-ce qu'on passe à la suite? Je vous propose alors de passer à la suite. Mais avant de passer à la suite, j'ai un petit appel à l'action à faire, puisque suite à la publication de mon anti-sèche Git, je me suis dit que j'allais en créer une autre. Et donc, j'écris une anti-sèche en cible, puisqu'on parle d'en cible ce soir. Ça me permet de glisser en fait ce petit mot. Donc, si tu veux avoir cette anti-sèche en cible et me faire des retours sur celle-ci, le lien est en description. Tu peux cliquer et tu pourras obtenir l'anti-sèche en cible.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Maintenant, on va se poser la question de pourquoi, finalement, on va redévelopper des choses qui ont déjà été développées par d'autres et pourquoi on va les garder en interne dans notre entreprise, puisqu'on a abordé l'aspect libéré, mais là, on va parler de le garder en interne dans notre entreprise et c'est Nicolas qui va ouvrir le bal.
Ouais, bah en fait, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au choix. C'est à vouloir prendre quelque chose d'un petit peu trop générique, ça va pas répondre à 100% de vos besoins. Et finalement, bah, vous allez, si vous essayez de faire rentrer votre projet, votre manière de l'installer dans un truc public, vous allez essayer de le faire rentrer au chausse-pied, vous allez y passer 6 mois et finalement, vous auriez peut-être été beaucoup plus vite à tout refaire vous-même. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même bien maîtriser l'outil avant de commencer à faire des choses comme ça, mais c'est ce qui va vous permettre de gagner du temps sur du long terme, parce que votre base de code sera quand même plus simple à lire, puisque ça va faire exactement la manière dont vous l'installez, et ça va pas forcément gérer toutes les autres distributions. Donc, c'était aussi ce que je disais tout à l'heure par rapport au nombre de distributions. Si vous en avez qu'une, ça sert à rien de gérer les 50 autres, puisque vous installez un point dev, vous installez un point RPM, mais vous installez que ça. Et tous les fichiers de configuration, c'est les vôtres. Donc, la partie hyper modulaire que vous pouvez avoir ailleurs, vous en avez pas besoin. Par contre, vous avez d'autres contraintes. Et des fois, les rajouter dans des trucs un petit peu à côté, bah ça fait perdre du temps. Alors après, ça n'empêche pas de regarder ce qui a été fait à côté pour s'en inspirer plus ou moins fortement. Alors, j'ai bien dit inspirer et pas copier-coller du code, parce que c'est de la propriété intellectuelle et c'est pas très cool pour ceux qui le gèrent. Mais des fois, ça va vous permettre de gagner du temps sur votre métier.
Ne copiez-collez pas, vous le faites et vous demandez à l'IA qui est dans votre IDE de copier, elle, le code qu'elle a trouvé publiquement.
Vous avez le droit de copier-coller à partir de Stack Overflow, mais pas à partir de GitHub. C'est pas bien. Et après, il y a un autre truc aussi, et c'est marrant parce que avec Arwan, on a vraiment la même vision par rapport à tous ces trucs-là. C'est avant de copier un truc aussi de l'extérieur, c'est pour éviter d'avoir un truc qui disparaît, d'avoir des choses qui sont modifiées. En fait, il faut bien faire en sorte que ça soit disponible sur le repository interne. Donc, moi, je le fais beaucoup sur les images Docker, par exemple, parce que c'est une certaine manière d'avoir de la gestion de conf. C'est, je suis totalement indépendant. Et quand je faisais de l'Ansible, c'est pareil. Les rôles, je les clonais en local sur mes repositories. Je les maintenais dans un repository Git privé parce que des fois, ça disparaît des repos publics et vous êtes le bec dans l'eau parce que tout fonctionne sur un truc qui existait à l'extérieur et du jour au lendemain, vous pouvez plus l'utiliser. Donc ça, c'est pas très sympa. C'est quand vous faites des trucs open source, vous les laissez en ligne. Si vous voulez plus les maintenir, vous pouvez le dire, mais c'est pas sympa de laisser les copains le bec dans l'eau.
Et donc, je précise que il y a une possibilité dans les dépôts de code, c'est d'archiver le projet, ce qui le met en lecture seule et ça dit explicitement ce projet, il n'est plus maintenu, mais il est encore à disposition.
Mais le supprimez pas parce que c'est pas sympa pour ceux qui l'utilisent. L'open source, c'est ça aussi. On supprime rien. Comme dans Git, on modifie pas l'historique. Et quand on publie un truc en open source, on ne l'enlève pas. Et donc, pour résumer, si c'est vraiment notre métier, qu'on installe un composant, si on revend du PostgreSQL as a service, c'est pas quelque chose qu'on va mettre à disposition parce que c'est aussi là où on a toute notre valeur ajoutée. Donc, on va faire en sorte que ça colle vraiment à ce qu'on veut faire et on va pas forcément vouloir le mettre à disposition de tout le monde.
Ouais, je suis parfaitement d'accord avec ça. Je vais en profiter. Je prends la parole puis après je laisserai Damir intervenir ou René. Nous sur Frogit, on a vraiment c'est-à-dire qu'on a pris des rôles publics, Mais par contre, il y a tout un tas de trucs qui est notre cœur business. Comment est-ce qu'on fait tourner notre GitLab? Comment est-ce qu'on la configure, etc. Ben ça, c'est pas du tout dans les rôles publics. C'est dans nos propres playbooks et on le garde en interne. Et parfois même, il y a des gens qui nous demandent comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous voulez partager? Ou on a un autre SaaS aussi qui déploie du Nextcloud tuné à notre manière. On nous le demande. On dit, bah non, ça, c'est secret professionnel. On a tout un tas de trucs publics. Utilisez-les. Mais si vraiment vous voulez, bah, vous venez chez nous, en fait. Tout simplement. Vous venez chez nous, vous prenez le service. Ou alors, on s'entend sur une session de propriété intellectuelle. Mais bon, c'est encore un autre sujet, ça. Moi, j'ai une question à poser à Nicolas et peut-être aux autres, parce que cette histoire de dépôt interne, ça m'intéresse parce que je ne l'ai jamais fait. Est-ce que, justement, vous utilisez des dépôts privés et vous prenez le code de ces dépôts privés avec Ansible ou d'autres? Ou est-ce que vous utilisez encore les dépôts publics et vous avez les dépôts privés uniquement au cas où?
Alors moi, majoritairement, ce que je fais, c'est que je clone le repo public en privé, j'utilise le privé et régulièrement, je regarde si le repository public a bougé, je le réintègre, je vérifie ce que ça casse dans mon infra parce que bah, comme je lance régulièrement, si je fais un dry run, normalement, il y a zéro modification. S'il y a des modifications, je regarde. Si c'est bon, je pousse dans le repository privé. Mais ma base, c'est toujours le repository privé parce que c'est aussi une manière de bien gérer le truc et de pas se prendre les pieds dans le tapis lors d'un apply malheureux. Parce que au bout d'un moment, ce qu'on va vouloir aussi, c'est que toutes les nuits, on fasse des applis automatiques sans se poser la question de dans quel état il infra. C'est elle doit être comme ça. Donc, on applique toutes les nuits et on écrase les configurations qui ont été modifiées d'une manière ou d'une autre. Si on utilise un truc public, on prend le risque qu'il y ait une régression, une manière de un changement de fichier de configuration. Des fois, on redémarre des services, on a envie que ça soit fait qu'à certaines heures. S'ils ont modifié un commentaire dans le fichier, que ça remodifie le fichier et qu'on redémarre le service, c'est un petit peu dommage.
Tu utilises vraiment Git comme un proxy, en fait. Un proxy de rôle ou de dépendance.
Après, j'ai dit Git parce que c'est ma manière de sauvegarder. Mais s'il y a d'autres trucs, par exemple, je parlais de Docker tout à l'heure, c'est la même chose. J'ai une registrie privée, j'utilise... Alors, non seulement je versionne dans Git, mais en plus, je pousse ça dans ma registrie privée. Et finalement, pour tout ce qui est binaire autre, on pourrait raisonner de la même manière. Si on fait du Rust, du Go, du machin, bah, pourquoi aller chercher les trucs à l'extérieur et pas le reconstruire soi-même?
Damir, tu veux compléter
Ouais, du coup, dans mon cas actuel, on a... pas de choses publiques de mémoire, ou peu, en tout cas la majorité, c'est sur des repos privés qui sont accessibles en transverse aux clients. Après, ça vient aussi du fait qu'on a des choses qui, pour l'instant, sont ultra, ultra spécifiques, et des outils, etc., qui sont très spécifiques, donc ça serait compliqué de le partager sans que ce soit incompréhensible, en fait, et sans contexte, donc il n'y a pas forcément d'intérêt. C'est peut-être quelque chose qu'on étudiera et c'est quelque chose qu'on voudrait étudier, je pense, demain, de ce qu'on avait discuté, quand on fera un refacto global, voir si on peut découper des bouts pour les mettre en public. Mais si c'est, on veut pas, en fait, de mon point de vue et de ce que je comprends où on est et de notre vision, on veut pas mettre en public pour mettre en public. Si on met en public, il faut que ce soit vraiment réutilisable. Il faut pas que ce soit juste en mode, ouhou, j'ai changé ma permission en public. Regardez, je fais de l'open source. C'est pas le but. Donc, du coup, ça va avec toutes les contraintes qu'il y a derrière, la doc, etc. Ce qui fait que pour l'instant, c'est pas trop le cas. Et du coup, si je peux...
Je peux juste compléter, justement, on en parlait tout à l'heure, parce que nous, on a l'expérience là-dessus. En effet, nous, en maintenant cette collection en cible Wayunhost, ça nous pousse à nous poser des questions sur l'usage que va en faire la communauté. Et on écrit des trucs qu'on n'aurait pas écrit, nous, si on l'avait fait pour notre propre usage interne. Et ça nous force à écrire des choses génériques, comme tu le dis. Si c'est vraiment trop adapté à un contexte particulier, ça n'a aucun intérêt de le rendre public.
Voilà. Et du coup, moi, ça a d'intérêt, mais il est quand même beaucoup plus limité, je veux dire. C'est sera moins réutilisé, sera peut-être plus utilisé pour des gens pour piocher un peu des bouts de code ou comprendre une logique que réellement réutiliser en un bloc. Autrement, ben, comme on disait, il y a un fait que les rôles et les choses, en tout cas génériques, que ce soit dans toutes les choses, ben, plus on va vouloir les variabiliser, etc., plus ça va quand même être dur à maintenir, ça va être dur à s'approprier. Je vais prendre un exemple très très simple, qui est pas de l'Ansible, mais je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Ça va être tout ce qui est chart Helm. Des fois, il y a des choses assez basiques que je veux utiliser, je veux mettre en place sur du cube. Je vois la charte Helm, je vois un fichier de value qui fait 3 km, je vois des conditions Go dans tous les sens. Alors, Go template, c'est très bien, sauf que ça devient très vite imbitable. Et on en finit par faire que des générations en local avec Helm template pour essayer de debug. Donc, on perd plus de temps qu'on en gagne. Et dans les cas-là, ouais, je préfère refaire un peu, réinventer la roue, entre guillemets, sachant que c'est pas non plus énormément de choses à faire en général. Mais je préfère repartir d'une charte de zéro, quitte à aller voir si je me plante pas sur des implèmes ou des choses comme ça et m'inspirer de la logique, etc. Mais je vais rarement réutiliser totalement à part des cas un peu précis comme l'ingress, etc. Mais pour des produits un peu plus purs, par exemple Keycloak, je vais préférer redémarrer mon truc de mon côté, surtout que je le connais un peu et on a nos repos internes. Mais on va préférer partir de côté pour éviter cette complexité. Complexité qui va nous impacter pas que pour la mise en place, qu'on gagne du temps à mettre en place avec des briques libres. Mais à contrario, si demain j'ai une brique libre, j'ai besoin de la faire évoluer, etc., parce que j'ai un besoin, il va falloir en fait contribuer. Il y a deux solutions, la solution un peu brutale et la solution un peu plus propre. La solution la plus brutale, c'est de forquer en privé ou en public et mettre juste ce qu'on veut ajouter. Ça, c'est la solution un peu bourrine parce qu'au final, elle participe pas au projet d'origine. Soit il y a la solution un peu plus propre, si j'ose dire, qui est de proposer cette modification au projet d'origine avec potentiellement des discussions, des échanges, etc. Et potentiellement s'il y a un refus, il y a quand même un côté incertain là-dessus, ce qui peut prendre du temps et ce qui peut être un peu compliqué dans certains contextes. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà vu poser problème en tout cas aux personnes et qui expliquait le passage en interne. Et en général, ouais, moi, ce qui me rebute souvent, c'est la complexité. Typiquement, on parle d'Ansible. Moi, on a beaucoup de clients, mais on a un parc qui est ultra homogène avec en très 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 grande majorité du Debian. Si demain je dois me taper des playbooks Ansible où j'ai que des rôles, il y a 5 fois le nombre de tasks pour être sûr que ça tourne sur toutes les machines et toutes les OS, ça me rajoute de la complexité, ça me rajoute du temps de debug. Pas grand chose. Donc des fois je préfère un peu. Moi vraiment les briques libres, je les vois dans deux cas. Le premier cas, c'est comme on disait, soit on connaît pas la techno, on a besoin de la mettre en place et on va monter en compétence après, j'aurais tendance à partir là-dessus. Et encore, souvent, ça devient une excuse un peu pour ne pas chercher à comprendre comment ça marche. Donc faut on peut l'utiliser, mais il faut pas que ça soit une excuse. Donc c'est un entre deux. Et le deuxième cas, c'est pour expérimenter rapidement des choses, pour faire un POC, etc. Et après, se l'approprier ou l'adapter en fait à notre contexte. Mais pour le coup, à long terme, j'ai rarement eu des cas où on était très grand gagnant, à part si ça devient un produit qu'on publie nous pour d'autres choses. Auquel cas là, ça devient un peu plus intéressant. Globalement, voilà mes petits points.
Il y a un truc aussi que je vais ajouter, c'est par rapport à la réflexion que j'ai, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé avant, mais moi ça fait un peu plus de 10 ans, ça a bientôt faire 10 ans que je travaille dans des sociétés qui développent des logiciels open source et dont le business model c'est vendre l'hébergement de ces solutions open source. Donc et en fait si je fais le choix de gérer moi-même les rôles, etc., pour déployer la solution, c'est pas dans mon intérêt financier, c'est pas dans l'intérêt business de la boîte de mettre ses composants critiques en open source, parce que c'est grâce à ça aussi qu'on gagne de l'argent. Donc c'est pour ça que pour tout ce qui est site vitrine et ainsi de suite, où c'est des parties qui sont pas dans le core business de la boîte, contribuer dessus, les utiliser, ça me pose aucun problème. Par contre, simplifier la vie des utilisateurs qui vont prendre ma solution open source et l'utiliser en interne, bizarrement, je suis beaucoup moins chaud parce que bizarrement, j'aime bien mon travail et je veux le garder. Donc, du coup, je fais en sorte de garder cette maîtrise là-dessus. Après, il ne faut pas. Oui.
Ça renvoie à une question un peu plus large qui est le business de l'open source. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est ultra, ultra complexe. Hein. Disons que c'est. c'est pas tant, je pense, la complexité qui pose problème, c'est juste que le modèle est totalement différent que le business classique, et ça demande à penser, on va dire, son fonctionnement de cette manière-là, et c'est pas tout le temps possible, surtout quand des choses ou un business sont déjà en place. Donc effectivement, ça peut être aussi un gros frein. Et je dirais même, comme je disais tout à l'heure, et j'insiste là-dessus parce que je vois trop souvent le cas, faire de l'open source, c'est pas juste publier quelque chose, c'est derrière assurer la maintenance, ça va être assurer du coup le support, les réponses dans les tickets, etc. Et le nombre de fois, parce que quand je pars de zéro, je vais quand même chercher s'il y a déjà des choses qui existent, ne serait-ce que pour voir si j'ai loupé quelque chose dans l'install ou dans la logique, au moins relire un peu le code. Sans troll, entre guillemets, 60 à 80% du temps, les projets ont... Soit c'est des très gros projets qui sont les top projets, etc. Soit c'est des projets qui n'ont jamais vraiment eu de contribution externe, des projets qui n'ont jamais vraiment eu de grosses mises à jour et qui sont des fois plus à jour. Parfois, il y a des commits qui datent d'il y a plus de 2-3 ans. Et dans les cas-là, ça m'inquiète, en fait. Et c'est là aussi un problème, c'est qu'on n'a pas la maîtrise du cycle de vie, en fait, quand le projet est à l'extérieur. On ne sait pas si le mainteneur va partir ou pas. Alors, il y a des mainteneurs qui font très bien leur entre guillemets travail, entre guillemets quelque chose, qui disent j'ai plus le temps de m'en occuper, donc si vous voulez le reprendre tant mieux, si vous voulez pas le reprendre tant pis, mais le projet est plus maintenu. Mais il y a aussi beaucoup de cas où les personnes ont juste laissé le projet dans un coin et s'en chargent pas. Et pour moi, dans ces cas-là, mais on oublie que l'open source aussi, c'est gérer en fait tout ça, gérer ce fonctionnement, ces mises à jour. C'est pas juste publier quelque chose et dire c'est publié, j'ai fini, je fais mon taf. D'ailleurs, de l'autre côté, pour les entreprises qui utilisent des briques libres, si vous pouvez pas aider au développement, pensez à aider sur de la doc, pensez à aider avec des donations financières potentiellement, pensez aussi à ces choses-là qui peuvent aider justement les projets communs à un peu s'améliorer, et surtout à se maintenir dans le temps, parce que c'est pas simple, comme disait Nicolas, notamment avec la partie, on va dire, financière et modèle économique. Désolé, je pars un peu dans tous les sens, je crois.
C'est pas gentil de critiquer mes contributions, enfin tous mes repos open source. Après, plus sérieusement, ça m'est arrivé 2-3 fois que les gens viennent me dire ah bah tiens, là j'ai une issue, et je leur dis bah écoute, j'ai plus le temps de travailler dessus, forque-le, mets-le dans ton coin. Le seul truc que je te demande, c'est de me citer dans les crédits du truc à l'origine. Mais si ça permet de faire aux gens de gagner du temps sur le bootstrap du truc, moi, je dis tant mieux, et je considère que l'open source, c'est ça aussi, c'est faire grandir la masse de trucs qu'on peut faire, et tu réutilises un truc, ça te fait gagner du temps, bah t'essayes de contribuer dessus, soit en l'utilisant et en rapportant des problèmes, et si ça n'est pas maintenu et que tu as les compétences, forque-le, discute avec les gens. Moi, je pense que la plupart des contributeurs, des mainteneurs d'origine, quand ils ont créé le produit et qu'ils n'ont plus le temps de le maintenir, si tu leur demandes, je pense qu'ils seront très heureux de te transférer le repo pour qu'ils puissent maintenir ça chez eux.
D'ailleurs, ils préféreront ça plutôt que de voir le projet péricliter et tomber et ne pas être maintenu.
Voilà.
C'est une bonne manière aussi de... Des fois, on cherche un projet à faire ou des gens qui veulent s'impliquer, c'est parfois une bonne solution de reprendre le projet de quelqu'un. Et je voulais juste ajouter quand même quelque chose côté, par exemple, Ansible Galaxy. Une des difficultés, enfin ça c'est plus une expérience perso, c'est qu'il y a souvent énormément de choix. Et je trouve que c'est ça qui est difficile en fait, c'est qu'on a énormément de choix, donc il faut passer beaucoup de temps à choisir le projet éventuellement qu'on veut utiliser, et si c'est un besoin basique, c'est vrai que c'est pas forcément peut-être une bonne pratique, mais on a tendance parfois à se dire bon, ce que je veux faire c'est basique, je vais le refaire, j'irai aussi vite. Voilà, je pense que c'est une difficulté. Et puis l'autre difficulté, un peu d'expérience de ça, c'est que parfois on veut juste effectivement faire un truc un peu petit, assez basique, et on se retrouve en face de rôles qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus complets. Et voilà, ça c'est peut-être un peu le côté qui fait que ça freine un peu la réutilisation pour ce genre de briques, quoi.
Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, juste quand Ansible a créé les collections, je pense que quand Red Hat a créé les collections, je pense qu'il a fait un bon choix, parce que ça, je pense, va permettre de faire mincir les rôles. Et des rôles qui faisaient tout et n'importe quoi vont devenir des petits rôles dans des collections qui font plus de choses. Je laisse la parole à Nicolas.
Oui, c'est vrai que ce que disait René, moi ça m'est arrivé, tu veux juste installer un Nginx, un Redis ou je sais pas quoi dans une configuration hyper basique et en fait comme ça gère 40 distribs, c'est il y a les ifs, les setups, les machins et en fait l'exécution te prend 5 minutes alors que si tu l'avais écrit toi-même, c'était plié en moins de 2 minutes, quoi.
Exactement. D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on a fait. En fait, on a séparé complètement l'installation de la configuration de Unhost et de la configuration des applications, parce que Unhost permet d'avoir des applications. Donc, on a fait plusieurs rôles et on a séparé aussi le backup, donc ce qui nous permet de lancer les rôles quand on veut et de faire ce qu'on veut sur les rôles et de pas avoir tout dans un seul gros rôle qui fait le café.
Et ça aussi, c'est un autre truc qui peut être envisagé. Alors, je sais plus si dans Ansible, on peut le faire de manière aussi fine, mais moi, côté SaaS stack, ce que je fais de plus en plus, c'est j'importe un rôle existant, je le surcharge de mon côté, parce que j'ai quelques rôles qui sont que je prends en open source. C'est pas critique, c'est pas les trucs de mon métier. Donc, encore une fois, j'essaye de prendre des trucs qui existent sur étagère pour gagner du temps. Par contre, j'ai des petits trucs spécifiques à mon installation et des fois on peut surcharger. Et quand c'est un rôle qui s'exécute rapidement, prenez-le. Et puis, si c'est pas possible de juste le surcharger en réutilisant, je crois que c'est le fait d'importer un rôle dans Ansible. On peut rajouter des triggers sur certaines actions. Et si c'est pas possible, copier, coller les actions dans votre truc. Comme ça sera plus simple et plus rapide.
Je ne sais pas si c'est possible de surcharger un rôle, honnêtement. On peut faire des tâches après, avant, mais je ne sais pas si ça,
Oui,
je
alors,
me suis jamais posé la question.
quand je dis surcharger, c'est je veux écrire un fichier de configuration à moi et je veux que le service soit redémarré après que ce fichier ait été modifié ou créé.
Ok, donc tu complètes le rôle en faisant tes propres tâches. En effet, c'est
Voilà.
largement possible de faire ça avec Ansible. D'ailleurs, nous,
Oui,
c'est ce qu'on fait.
je l'avais fait à l'époque, mais je ne sais plus dans quelle manière c'est possible.
Après, je pense qu'il faut aussi un peu se méfier parce qu'il y a peut-être un biais aussi de quand on le fait soi-même, on croit toujours qu'on va aller plus vite. Et ça, je pense qu'il faut quand même être un peu méfiant parce que des fois, ça prend souvent plus de temps qu'on l'imagine. Et puis, souvent, on loupe aussi des cas un petit peu à la marge, etc. Donc, voilà.
D'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'en a pas parlé de ça, du retour sur investissement. Et donc, je pense qu'à mettre dans la balance, développer ses propres rôles ou utiliser des rôles qui existent déjà, comme le dit René, on doit mettre dans la balance le temps de développement qu'on pourrait estimer. Et est-ce que c'est un bon retour sur investissement de le faire nous-mêmes ou d'utiliser un truc et de le tuner un petit peu, comme l'a dit Nicolas? Et ça, c'est des questions à se poser avant de commencer.
Ouais, puis je pense qu'il y a un deuxième biais, c'est le biais du not invented here, c'est-à-dire qu'on aime bien faire son truc à soi, parce que quand tu fais ton truc à toi, c'est quelque part plus. C'est ton truc, tu sais comment ça va marcher, quoi. T'as pas besoin de te. Tu l'as pensé, et voilà, t'es pas obligé de rentrer dans le code de quelqu'un d'autre, ce qui est souvent plus difficile. Donc voilà, je pense que ça, c'est un biais quelque part qui peut être un peu trompeur, hein. Pas toujours, mais voilà.
Mais du coup, tu as le problème inverse parce que quand tu as une personne qui arrive dans l'équipe, si c'est des rôles open source qui ont déjà été utilisés ailleurs, si le gars les a déjà utilisés, enfin, ou la fille, on réutilise tout de la même manière et paf, on est opérationnel. Moi, comme je refais tout moi-même, les gens, ils arrivent, c'est tu te prends un mur parce que il y a énormément de code à lire avant de comprendre quoi que ce soit.
Ouais, alors je
Personnellement,
pense.
c'est.
Pardon.
Non, mais juste personnellement, j'ai jamais eu le cas en réalisant des projets, on va dire libres, que ce soit Ansible ou plus Terraform. J'ai jamais eu le cas où je suis tombé sur une boîte qui utilise un truc que j'ai déjà utilisé dans une autre boîte qui soit publique. Hein. Ça, pour le coup, je pense que c'est le pourcentage de chance est quand même assez faible. Mais d'un autre côté, moi, souvent, ce que j'ai, c'est je prends un code public, que ce soit un truc ou autre, même si je veux gagner du temps en ne le réécrivant pas. Le temps que je lise comment ça a été fait, que je le comprenne, surtout s'il n'y a pas de doc où je dois comprendre l'intention avec le code, c'est très chronophage aussi. Je pense que dans tous les cas, c'est très compliqué de. En fait, justement, ce choix de savoir qu'est-ce qui est le plus rentable entre partir de zéro ou partir sur un truc existant, c'est pas quelque chose qui est simple. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte, que ce soit si le projet est encore maintenu ou pas, à quel point il est encore maintenu, l'insécurité par rapport à cette maintenance, est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'il y a un mainteneur dans son coin qui fait tout seul? Est-ce qu'il y a une équipe d'une dizaine de personnes qui bossent dessus? Il y a plein de choses comme ça qui sont à se poser. La complexité, le fait que reprendre, ça peut être chronophage aussi, comme tu disais René, il faut tester tous les cas, etc. Et je pense que faire cette balance, en fait, c'est assez complexe. Dans certains cas, on peut pas la faire précisément.
On peut aussi parler de comment on crée un nouveau rôle. Moi, j'ai un pote à moi qui me demandait, mais tiens, mais comment est-ce que tu fais? Et on a pris un cas concret, on a pris un produit, et en fait, quand c'est quelque chose que je connais un minimum, je regarde la doc et en fait, j'écris directement le rôle et je réécris ça dans l'outil de gestion de conf, que ça soit de l'Ansible, du Sales Stack, peu importe. Tu réécris au fur et à mesure, et en fait, à la fin, si ça fonctionne, tu peux le réinstaller autant de fois que tu veux, sur autant de serveurs que tu veux. Après, sur un produit qu'on connaît pas, on peut vouloir l'installer à la main en notant les commandes dans un fichier pour pouvoir le reproduire plus rapidement après. Et si on se rend compte que la masse de boulot à faire est pas si énorme, ça vaut peut-être le coup de le retransposer dans un rôle. On peut aussi essayer un rôle, on prend une machine toute neuve dans un coin, c'est en plus avec le cloud maintenant, on peut faire du crash and destroy, on bootstrap une nouvelle VM, on lance le rôle dessus, on se rend compte que c'est rapide, ça fonctionne à peu près comme on veut, on y va, on l'utilise. Je pense qu'il faut aussi avoir une petite phase d'exploration pour regarder quelle est la complexité du rôle, à quel point je peux l'utiliser, combien de temps ça me prendrait pour le réécrire, et ainsi de suite.
Je vais rebondir sur ce que tu as dit, parce que moi, c'est ce que je conseille à tous les membres de mon équipe. Quand on doit automatiser quelque chose qui n'a encore jamais été fait, on ne part pas directement, comme tu l'as dit, dans l'écriture. On le fait manuellement pour bien comprendre les enjeux, les commandes, etc. On le fait une première fois. Une fois qu'on est au point sur ce qu'on a fait, on automatise. Je trouve à titre personnel que c'est la méthode la plus rapide pour développer des rôles d'infra as code, c'est de tester d'abord, d'automatiser ensuite. Trop souvent, au début de ma carrière, j'ai écrit les trucs, je voyais que ça ne marchait pas, j'ai modifié mon code et tout, et alors qu'en fait, maintenant, je le fais à la main, je trouve la bonne solution et j'automatise ce que j'ai fait à la main.
Je pense que ça dépend du produit et ça dépend de l'expertise que tu as sur la solution. Si tu maîtrises Ansible, tu vas pas forcément mettre beaucoup plus de temps pour le faire, parce que si c'est installer un package, créer un fichier de configuration et s'assurer que le service est up au démarrage, tout le monde sait faire ça en Ansible. Si tu commences à avoir des trucs un petit peu compliqués, aller chercher une adresse IP d'un service pour aller le mettre dans un autre, etc., là oui, ça c'est clairement, faut le faire à la main. Mais encore une fois, c'est une réflexion à avoir un petit peu en amont avant de se lancer la tête dans le guidon de se prendre le mur à la fin. C'est évaluer combien de temps vous allez mettre pour l'écrire et vous gagnerez du temps sur du long terme.
Alors, je voulais juste ajouter un tout petit truc, c'est par rapport à ce que je pensais que c'était ça que tu voulais dire tout à l'heure, Nicolas, mais le fait aussi quand même peut-être faire attention à ça quand on écrit son propre playbook, etc. Ben on le fait pour soi. Et je pensais que c'est ce que tu voulais dire, c'est que quand il y a des nouveaux qui vont arriver, faut faire attention à ne pas prendre trop de raccourcis, parce que quand on le fait pour soi, ben on sait ce qu'on a voulu faire, etc. Et quand il y a des nouveaux qui vont venir peut-être exploiter ce truc-là, faut quand même garder un niveau de... peut-être de commentaires, etc., de bonnes pratiques pour que les gens puissent comprendre ce qu'on a voulu faire. On réfléchit pas tous de la même manière, et du coup, parfois, ça peut être difficile de reprendre parfois.
L'importance de la doc dans les cas-là, c'est de commenter, de compléter avec l'intention le code qui ne le retranscrit pas tout le temps.
Exactement. Ouais, mais je pense que tu peux avoir malheureusement, quand tu le fais pour toi, un peu ce raccourci de se dire je sais ce que j'ai voulu faire. Bon, après 3 mois après, tu vas peut-être pleurer, mais il faut faire un peu attention, je pense, à ça quand on refait quelque chose, d'être sûr qu'on le fait avec un niveau de qualité similaire à ce qu'on aurait pu reprendre.
Mais ça, pour moi, c'est du coup en interne, c'est bien d'avoir une definition of done de rôle et de choses comme ça, qui dit que les choses sont, par exemple, le projet est fini quand tout est explicité, y compris du coup les cas un peu complexes, etc.
Eh ben merci.
Oui, on en revient juste un peu à ce que je disais, c'est que souvent on sous-estime qu'on fait soi-même un petit peu le temps que ça va prendre.
Oui, ça c'est vrai. Par contre, c'est... les deux choses que tu as dit sont vraies, et pas que dans le code d'infrastructure, c'est vrai dans le code de manière générale.
Et je vous dirais plus, c'est rajouter aussi des tests, type test infra, etc., et si possible dans une CI, parce que ça va vous faire gagner énormément de temps sur du long terme, et surtout si vous travaillez à plusieurs. Moi aujourd'hui je suis tout seul dans mon infra, comme le disait René, je le fais pour moi. Donc, je sais que le jour où une personne va rentrer dans l'entreprise pour travailler avec moi, il va y avoir une certaine inertie pour rentrer dedans. Après, d'expérience, je sais que ça peut se faire assez rapidement parce que je suis premier à râler sur ce que j'ai fait il y a 6 mois quand c'est pas intelligible. Donc, du coup, je m'arrange toujours pour que ça soit lisible. Mais bon, des fois, on est dans le rush, donc...
Et d'ailleurs, on a prévu de faire un prochain podcast un jour sur les tests d'infrastructure. On attend pour le faire, mais ça arrivera un jour ou l'autre. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ou je passe à la conclusion de cet épisode ?
Non, moi, ça me paraît bon.
Eh ben, on va passer à la conclusion de cet épisode. Donc, comme tu l'auras compris, maintenir des logiciels libres, c'est important, ça demande du temps et des moyens. Créer du contenu libre, ça demande aussi du temps et des moyens. Donc, si tu apprécies le podcast et si tu veux qu'il continue à venir et à, comment dire, à t'apprendre des choses, eh ben, tu peux nous soutenir grâce à un don, si tu peux, sur soutenir.compagnon-devops.fr. Ça nous aidera à payer les infrastructures, les outils qu'on utilise, et ça nous permettra de continuer à faire des épisodes de podcast encore longtemps, en tout cas, je l'espère. Et moi, je vais me tourner vers mes co-animateurs et leur laisser le mot de la fin. Et cette fois-ci, je vais commencer par Damir.
Du coup, c'est si vous utilisez de l'open source ou des produits partagés, n'oubliez pas d'y contribuer aussi.
Nicolas, un petit mot.
Je vais piquer l'idée de Damir sur la documentation et je vais rajouter les tests. Si vous faites des trucs en interne, n'oubliez pas que vous êtes vos premiers clients.
Exactement. Et René, tu as l'honneur, l'assigne-honneur d'avoir le mot de la fin de la fin.
Ah, mais je sais plus quoi dire maintenant, donc je vais souhaiter une bonne écoute aux auditeurs et puis à bientôt pour un prochain podcast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.